Bonjour, c'est Agnès Bonfillon, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Chaque jour, nous prenons le temps de décrypter un sujet, un phénomène, un événement. Et aujourd'hui... ambiance Coupe du Monde, et pour cause, l'une des plus grosses compétitions a lieu en ce moment même à Paris. Des athlètes qui s'affrontent avec beaucoup d'argent à la clé. Ce week-end, une équipe repartira de la salle Accor Arena avec 1,35 million d'euros. Le Blast TV Major, c'est du sport, mais avec un i devant, de l'e-sport, électronique sport. Bienvenue dans les jeux vidéo à très haut niveau. Et pour en parler avec nous, un spécialiste, Bertrand Amard, bonjour.
Bonjour Agnès.
Vous êtes producteur de Webedia, directeur de la première chaîne de télévision 100% e-sport en France, ES1. Alors très concrètement, qu'est-ce que le e-sport ?
Ah, l'e-sport, c'est la compétition basée sur des jeux vidéo. C'est-à-dire, c'est le fait d'utiliser des jeux vidéo pour s'affronter. Alors, beaucoup de gens pensent que quand on parle d'e-sport, on parle de jeux de sport, hein, comme FIFA ou les jeux de basket. Pas du tout, c'est tous les jeux vidéo. La plupart des jeux n'ont même rien à voir avec le sport. Hein. C'est des jeux plutôt de stratégie, d'action.
On peut dire combat ?
Il y a des jeux de combat qui sont effectivement des jeux qui servent à des scènes e-sport. Il faut bien imaginer que par rapport au sport, chaque jeu est une discipline. Donc dans le sport, il y a du foot, il y a de l'athlétisme, etc. Dans l'e-sport, il y a Counter-Strike ce week-end à l'Accor Arena. Il y a des jeux de combat, effectivement. Il y a du League of Legends. Nous, on organise le championnat de France de League of Legends. Et un jeu égale une discipline.
Et ça se joue forcément en équipe ?
Non, pas du tout. Il y a des jeux solo. Vous parliez des jeux de combat, Street Fighter par exemple, ou Tekken. Tous ces grands jeux de combat sont des jeux qui se jouent en solo. Les jeux de sport aussi souvent se jouent en solo. FIFA, voilà, il y a un champion du monde de FIFA. Mais beaucoup de jeux se jouent en équipe de 4, en équipe de 5, en fonction des jeux. C'est le cas de Counter-Strike, le jeu auquel on va jouer ce week-end à l'Accor Arena. C'est le cas aussi de League of Legends. Là, ce sont des jeux d'équipe.
Est-ce qu'on peut qualifier ces joueurs d'athlètes ?
Dans une certaine mesure, oui. Ce n'est pas des sportifs, hein, faut pas tout mélanger, mais ce sont des athlètes dans le sens où il y a une vraie proximité avec la vie d'un champion de sportif. C'est-à-dire que comme un sportif, ils s'entraînent. Comme un sportif, ils établissent des stratégies. Ils ont des partenaires, des équipementiers. Ils font partie d'équipes, ils font partie de championnats. Ils essaient de se qualifier pour des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde, etc. Donc c'est très, très, très similaire. Et même dans l'entraînement, ils ont des coachs mentaux, des coachs physiques, puisque pour être performant, il faut être en forme physiquement.
C'est-à-dire
aussi
avoir un régime alimentaire
absolument
particulier. C'est
absolument.
Vrai,
ah oui, absolument, bien sûr. Le sommeil également est très surveillé. Et puis, il y a des blessures. Hein. Lorsque vous bougez votre souris, il faut entretenir vos poignets. Lorsque vous avez vos mains posées sur un clavier, c'est pareil. Vous pouvez avoir des blessures au poignet, etc. Et ça peut être très handicapant. Donc, ils sont absolument suivi. Et puis la dépense physique aide à améliorer le mental, tout le monde le sait. Et donc souvent, leur entraînement s'accompagne aussi d'un entraînement physique.
Donc on est bien loin de l'ado qui passe 20 heures dans sa chambre en mangeant des pépitos et à jouer au jeu ?
On est extrêmement loin de ça, heureusement. Beaucoup le pensent. Toutes les études prouvent que les personnes qui sont engagées dans le jeu vidéo compétitif pratiquent plus de sport que les autres, parce qu'il y a un esprit de compétition, il y a un esprit de dépassement qui fait que on le vit dans le jeu vidéo, mais on le vit aussi dans le sport. Quoi.
Et quel est le profil de ces athlètes comme dans le sport, c'est-à-dire qu'il y a des recruteurs qui vont voir un petit peu tout ça, qui vont dire ah, lui il est bon, on le prend dans une équipe.
Exactement, à la différence près que l'e-sport est connecté. Donc un recruteur dans le foot doit faire la tournée des petits stades de banlieue pour repérer la prochaine pépite. Dans le jeu vidéo, c'est facile puisque où que vous soyez, vous êtes connecté à un serveur. Et donc, vos performances vont apparaître dans les classements. Et c'est comme ça que les équipes repèrent les joueurs.
Et c'est comme ça aussi que naissent les stars. Il y a des stars dans ce domaine ?
Ah oui, il y a des stars. Il y a des stars mondiales. Je peux parler par exemple de Reckless, qui est un joueur, alors c'est son pseudo, c'est un joueur suédois, qui est une star européenne de League of Legends. C'est vraiment une star. Et il est arrivé l'année dernière dans le championnat de France de League of Legends, la LFL qu'on organise chez Webedia. Ça a fait exactement le même effet que lorsque Beckham est arrivé au PSG, par exemple. On s'est dit, mais c'est pas possible. On a une star mondiale dans le championnat de France. Et une star comme lui peut être payée jusqu'à 1 million d'euros par an. Donc, on est dans des salaires qui dépassent même beaucoup de sportifs. Donc, oui, il y a des stars. La star mondiale est un joueur de League of Legends, est un joueur coréen qui s'appelle Faker. C'est vraiment l'équivalent de Messi dans le sport. C'est la star mondiale. Et puis, sur Counter-Strike, le jeu auquel on joue ce week-end, il y a notamment un joueur français qui s'appelle Zaiwoo, qui joue dans l'équipe Vitality, qui est qualifié pour les quarts de finale. Lui, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a été le meilleur joueur du monde, donc c'est une star du jeu et c'est un ch'ti français voilà, qui évolue au plus haut niveau mondial.
Quel est l'équivalent d'un club de foot dans l'univers de l'e-sport ?
C'est exactement la même chose. Donc il y a des clubs, et comme dans les clubs sportifs, prenons l'exemple du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a une équipe de foot, a une équipe de foot féminine, a une équipe de handball, et ben c'est pareil. Une équipe comme Vitality, par exemple, peut être engagée sur plusieurs disciplines. Donc, ils ont une équipe de League of Legends, ils ont une équipe de Counter-Strike, ils ont des joueurs sur FIFA. Ils vont décider les disciplines dans lesquelles ils s'engagent, comme un club de sport va décider des sports dans lesquels ils s'engagent.
Et en France, on est plutôt bien classé, on a de bons champions ?
On est extrêmement bien classé à tous les points de vue. D'un point de vue joueur, on a vraiment des très bons champions. On a des joueurs français qui évoluent dans les plus grands championnats du monde. Je parlais de Counter-Strike, c'est le cas également sur League of Legends. Mais on a aussi une audience incroyable en France. On est considéré par les acteurs mondiaux de l'e-sport comme l'un des pays leaders, notamment par l'engagement des communautés. On a un public de fans qui se mobilise et les gens à l'étranger disent souvent que la France a le meilleur public parce que quand il y a un événement en France, c'est vraiment le feu dans la salle.
Ce sont des supporters, ce sont des fans, comme on pourrait être dans un concert ou dans un stade, on va l'entendre. Mais il y a aussi des commentateurs, comme dans tout sport.
They get that bomb down. If Acor can even get one here, that's fantastic. But he dies immediately on the swing. Oh. Isaac, what a time to find his footing. He is on for the ace. One kill away from it. And it's Shalfy, the man to beat, moving up through Banana. Isaac knows, and he gets all five.
Donc des commentateurs qui commentent pour le coup les jeux en live, en direct. Ils commentent ce qui est en train de se passer entre les joueurs.
Exactement, comme dans le sport. Hein, on les appelle les casters, les commentateurs. Et pour certains jeux, c'est très difficile à suivre lorsqu'on ne parle pas le langage du jeu. C'est-à-dire qu'il y a le nom des joueurs, le nom des équipes, le nom des personnages que les joueurs incarnent, le nom des mouvements spéciaux, etc. Donc c'est vraiment un champ lexical spécifique à chaque jeu. Et lorsque vous suivez League of Legends, vous allez peut-être avoir du mal à suivre Counter-Strike. Et c'est pareil, je refais le parallèle, que le sport. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes un fan de foot, si on vous met devant une...
Le saut à la perche, ça va être compliqué.
Ah voilà, vous n'avez pas
plus compliqué
avoir,
en tout cas.
N'allez pas avoir tous les codes. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Et ces commentateurs font partie des stars que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que on a en France, par exemple, sur League of Legends, des commentateurs, et je pense notamment à deux commentateurs qui s'appellent Chips et Noix, qui commentent League of Legends depuis plus de 10 ans. Ils ont commenté la finale du championnat du monde qui était à l'Accor Arena en 2019. Ils commentent la LFL et les gens viennent aussi les voir. Ils font partie du show. Ils font partie des stars qu'on a envie de voir et d'entendre.
Et ce week-end là à Paris, j'imagine que de nombreux casteurs arrivent du monde entier.
Oui, alors absolument. Il y a des commentateurs qui viennent du monde entier. Counter-Strike est un jeu notamment très populaire au Brésil. Donc il y a des commentateurs brésiliens et même des influenceurs, des streamers qui viennent du Brésil pour produire du contenu à Paris. Nous, chez Webedia et sur la chaîne MGG, on a la chance d'avoir les droits de diffusion exclusifs en France de cet événement. Donc on va avoir nos commentateurs qui seront sur place. CND, c'est son pseudo lui aussi, mais d'autres commentateurs qui sont les stars du jeu Counter-Strike. Et pour eux, c'est vraiment l'événement de leur vie. C'est comme un journaliste sportif qui avait l'occasion de commenter le Mondial 98. Je veux dire, on est sur des championnats du monde qui se déroulent en France pour la première fois et on a en plus une équipe française qui performe. Donc, tout cet écosystème vit un rêve là en ce moment. Quoi.
C'est à guichet fermé ce week-end, c'est monumental. Et au niveau de l'ambiance... On pourrait être dans un concert, hein, on le disait, dans un stade, c'est exactement la même ambiance. Les supporters viennent soutenir leur équipe.
Là, là aussi, le parallèle avec le sport, il est total. C'est-à-dire que ce week-end, pour le Blast Major, on va avoir des supporters des équipes qualifiées qui achètent les maillots de l'équipe, qui les font floquer au nom de leurs joueurs préférés dans l'équipe. Et on a des joueurs qui sont suivis, qui ont leurs produits dérivés, qui peuvent sortir une souris, par exemple, pour ordinateur, qui va se vendre à des dizaines de milliers d'exemplaires en quelques secondes parce qu'elle a été validée par tel joueur. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement suivis, extrêmement influents, quoi. La souris, le clavier, tout ça, c'est les équipementiers, c'est l'équivalent des chaussures pour les footballeurs, quoi. Donc, s'il joue avec cette chaussure, c'est qu'elle doit être super. S'il a choisi cette souris, c'est qu'elle doit être super. On est vraiment dans un parallèle total avec le sport.
Personnellement, je ne connaissais pas, et je pense que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas forcément ce milieu, mais c'est passionnant à découvrir parce qu'il y a une économie. On parlait de votre télé, hein, ne serait-ce que votre télé, qui ne s'appelle plus ES100, mais MGG depuis l'année dernière.
Bonjour à tous et bienvenue dans Versus, votre rendez-vous consacré aux jeux de combat.
Salut à tous, c'est Trapa sur ES1.
On va revenir sur la victoire de FaZe contre Astralis sur Counter-Strike Global Offensive.
Donc les passionnés peuvent jouer chez eux, essayer d'intégrer un club, regarder la télé dédiée à ce e-sport. C'est un monde parallèle.
Oui, oui. Non, mais oui, c'est un monde parallèle quand on ne le connaît pas, mais il est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Ce que vous faites dans ce podcast, voilà, le rend à chaque fois plus accessible. Et je pense que beaucoup de gens commencent à savoir définir ce qu'est l'e-sport. On n'est plus sur un phénomène aussi étranger qu'il pouvait l'être il y a encore 5 ans. On voit qu'aujourd'hui, c'est reconnu aux plus hautes instances de l'État. Hein. Le président Macron en a fait une vraie volonté pour que la France soit leader du secteur à l'échéance de 2025. Il y a aujourd'hui plusieurs ministres qui sont en charge de cette industrie. Ce n'était pas le cas avant. Dans les régions aussi, il y a la région Sud notamment qui fait beaucoup pour développer l'e-sport et accueillir des événements comme à Nice ou ailleurs, même dans la région Sud. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté territoriale parce qu'il y a une vraie prise de conscience, qu'il y a une audience, qu'il y a un marché. Vous parliez d'économie, elle est encore toute petite par rapport à celle du sport, mais elle est en croissance totale et il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui vivent déjà de l'e-sport en France. Hein. C'est un secteur économique qui est en pleine croissance. Donc pour toutes ces raisons, c'est de plus en plus connu et reconnu.
Est-ce que c'est générationnel ? Ce que je veux dire, c'est que moi, je vous disais, je connais pas grand-chose au e-sport. Alors là, je le découvre avec vous et c'est passionnant, effectivement. Est-ce qu'au fur et à mesure, ça va rentrer dans
bien
ma
sûr.
Vie ?
Oui,
ça va
bien
vraiment venir à moi.
Alors déjà, l'e-sport existe depuis très longtemps, hein, pour ainsi dire, depuis que le jeu vidéo existe. Hein, dans les années 80, il y avait déjà des compétitions sur les consoles Atari, etc. Ça a vraiment explosé, disons, il y a un peu plus de 10 ans, avec l'avènement du streaming et de la plateforme Twitch, qui a permis de rendre l'e-sport accessible à tout à chacun. Il suffisait de regarder les compétitions en ligne. Avant, il fallait se déplacer pour voir les compétitions. Depuis un peu plus de 10 ans, elles sont diffusées, elles sont streamées. Les audiences grossissent, elles ont explosé avec le premier confinement, où on a vu les audiences de Twitch quasiment doubler en un mois. Et donc, effectivement, ça concerne de plus en plus de personnes, mais surtout, tout ça pour vous dire qu'il y a 10 ans, il y avait déjà des gens qui regardaient l'e-sport. Je vous parlais de Chips et Noix, ils commentaient League of Legends il y a 10 ans. Bah, les gens qui avaient 20 ans il y a 10 ans, ils ont 30 ans aujourd'hui et ils auront 40 ans dans 10 ans. Et donc, leurs enfants vont naître avec l'e-sport et avec des parents qui suivent l'e-sport. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que l'e-sport est consommé vraiment par ces consommateurs qu'on estime autour de 10 millions en France, hein, déjà, comme un sport à part entière, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de différence. Ils vont suivre le championnat de rugby, le championnat de League of Legends. C'est un spectacle compétitif au même titre que le sport. Et ça, de plus en plus, de plus en plus. Ça impacte les audiences du sport traditionnel, puisque évidemment, tout le monde n'a pas 24 heures disponibles dans la journée pour regarder des compétitions. Donc, on voit que les audiences du sport traditionnel vieillissent. On le voit aux États-Unis, on le voit en France, parce que justement, les jeunes, une partie de leur consommation de sport et de compétition est maintenant consacrée à l'e-sport.
Donc un petit mot pour les parents qui nous écoutent encore une fois. Si notre ado est passionné, vraiment passionné de jeux vidéo, peut se dire que ça peut être un plan de carrière. Alors après, on est d'accord que quand votre enfant fait du foot, c'est pas forcément le Mbappé de demain. Hein.
C'est la même chose. Donc il faut surtout être très vigilant. Ne pas penser qu'il n'y a pas de possibilité, parce qu'il y a des emplois, et il n'y a pas que les emplois de joueurs. Dans l'écosystème e-sport, il y a les commentateurs, on l'a dit, les producteurs, les techniciens, les organisateurs, les analystes, les directeurs marketing, les commerciaux. Donc, il y a toute une économie autour du jeu vidéo, et pas seulement le joueur. Donc, si votre enfant est passionné, il faut l'écouter, parce que il a la possibilité de travailler dans cette industrie. Maintenant, s'il dit « je vais être champion du monde », il y a...
Calmer ses ardeurs.
Voilà, faut regarder ses scores, mais il y a autant de chances que dans le foot. Voilà, donc c'est pas impossible, mais c'est difficile.
Mais c'est peut-être aussi là qu'il faut l'inscrire dans un club et vraiment s'en remettre à des professionnels, comme on le fait avec un club amateur, par exemple, au départ.
En tout cas, lui, il va participer à des compétitions, donc naturellement, il va rejoindre des équipes, etc. En revanche, aujourd'hui, il existe en France des écoles qui s'apparentent plus à des écoles de commerce / des écoles un petit peu d'audiovisuel qui forment au métier de l'e-sport, qui sont les métiers que j'évoquais, qui peuvent être responsable commercial, marketing, organisateur de tournois, responsable communication. Toutes ces entreprises, que ce soit la nôtre ou les clubs de sport, d'e-sport, les structures et même les marques qui s'intéressent à l'e-sport, commencent à recruter, je pense à des marques comme Aldi, par exemple, et les supermarchés, ils ont au sein de leur équipe une personne dédiée à ce que fait Aldi dans l'e-sport. Donc, il y a beaucoup de moyens de travailler dans l'e-sport, et il y a des écoles qui commencent à former à ça, quoi.
Vous parliez d'une marque de supermarché, pour le coup, pareil, là, il y a des sponsors, j'imagine, dans l'e-sport, comme il y en a dans d'autres disciplines.
C'est même encore plus important dans l'e-sport que dans le sport, puisque la grande différence entre l'e-sport et le sport, c'est le problème des revenus liés aux droits. Dans le sport, vous le savez, les droits se monnaient des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. Pour voir regarder tel ou tel championnat, vous devez être abonné à telle ou telle chaîne. Et donc, ça génère des revenus de droits qui sont ensuite reversés à l'écosystème. Dans le championnat de France de foot, les clubs perçoivent des revenus de la Ligue, de la LFP, en fonction des droits que la LFP va vendre à Amazon, par exemple, pour la diffusion du championnat de la Ligue 1. Dans l'e-sport, c'est quasiment absent, puisque toutes les compétitions, pour le moment, sont diffusées gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer pour regarder le Blast TV Major ce week-end. C'est gratuit. Et donc, les seuls revenus, quasiment, viennent des sponsors. Donc, les sponsors sont déterminants dans l'économie de l'e-sport.
Une dernière petite question, la durée de vie d'un athlète haut niveau dans l'e-sport?
C'est assez variable, je dirais que c'est comme le sport, je dirais une dizaine d'années peut-être au haut niveau, ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus fatigants que d'autres parce qu'ils nécessitent de jouer beaucoup plus d'heures par jour pour garder du haut niveau. Là où certains jeux, on va s'entraîner comme le foot, une heure, deux heures, trois heures et on maintient son niveau. Mais en fait, il y a déjà beaucoup de reconversions. Je vais vous prendre l'exemple d'un joueur français légendaire de League of Legends qui s'appelle Borakim, son pseudo c'est Yellowstar. Ce joueur a été plusieurs fois champion d'Europe sur le jeu League of Legends à l'époque dans l'équipe Fnatic. Et puis, il a arrêté sa carrière de joueur. Il est devenu manager du PSG e-sport. Donc, il est devenu patron du PSG e-sport. Puis, il est devenu entraîneur d'une équipe LDLCOL basée à Lyon. Et aujourd'hui, il est agent de joueur. Donc, vous voyez, l'exemple de Yellowstar, ça fait peut-être 15 ans qu'il est dans le secteur professionnel de l'e-sport. Donc, voilà, d'autres deviennent commentateurs. Par exemple.
Et quand vous dites beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures avec des jeux qui sont plus fatigants que d'autres, combien de temps faut-il s'entraîner à haut niveau par jour ?
Ça dépend des jeux, je le dis, mais sur League of Legends, les joueurs à haut niveau jouent plusieurs heures par jour. Et c'est extrêmement sollicitant, puisque dans le foot, par exemple, un joueur, lorsqu'il n'a pas la balle, il suit un peu le mouvement, mais il n'est pas dans l'action. Sur ce jeu, League of Legends en l'occurrence, les joueurs sont chacun dans l'action en permanence. Et donc, sur des parties qui durent 40 minutes, ça sollicite énormément de réflexes, de stratégies. C'est fatigant, c'est épuisant. Et l'arrêt des carrières vient plus de la fatigue et du fait d'avoir envie de passer à autre chose que d'une limite physique presque.
On y croit pour la France ce week-end ?
On y croit, mais carrément. On y croit carrément. Je ne veux pas leur porter l'œil et je touche du bois. Mais on est un peu dans France 98. Quoi. Voilà, on est avec une équipe française qui s'est déjà qualifiée pour les phases finales. C'est extraordinaire. Et les voir remporter leur premier major, ce serait extraordinaire pour Vitality. Oui.
Merci beaucoup Bertrand Hamard d'avoir été avec nous, de nous avoir fait découvrir ce monde qui est vraiment passionnant. Je rappelle que vous êtes producteur de Webedia et directeur de la première chaîne de télévision 100% e-sport en France, MGG.
Merci Agnès.
Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Si vous le souhaitez le réécouter, bien sûr, comme tous les autres épisodes, il est disponible sur rtl.fr et l'appli RTL. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire.